Sénèque, Lettre à Lucilius, Livre 1. Lettre 1 sur l'emploi du temps. Suis ton plan, cher Lucilius. Reprends possession de toi-même. Le temps, qui jusqu'ici t'était ravi ou dérobé, ou que tu laissais perdre, recueille-le et ménage-le. Persuade-toi que la chose a lieu comme je te l'écris. Il est des heures qu'on nous enlève par force, d'autres par surprise, d'autres coulent de nos mains. Or, la plus honteuse perte est celle qui vient de négligence. Et, si tu y prends garde, la plus grande part de la vie se passe à mal faire, une grande à ne rien faire, le tout à faire autre chose que ce qu'on devrait. Montre-moi un homme qui mette au temps le moindre prix, qui sache ce que vaut un jour, qui comprenne que chaque jour il meurt en détail. Car c'est notre erreur de ne voir la mort que devant nous. En grande partie déjà, on l'a laissée derrière. Tout l'espace franchi est à elle. Persiste donc, ami, à faire ce que tu me mandes. Sois complètement maître de toutes tes heures. Tu dépendras moins de demain si tu t'assures bien d'aujourd'hui. Tandis qu'on la journe, la vie passe. Cher Lucilius, tout le reste est d'emprunt. Le temps seul est notre bien. C'est la seule chose, fugitive et glissante, dont la nature nous livre la propriété et nous en dépossède qui veut. Mais telle est la folie humaine. Le don le plus mince et le plus futile, dont la perte au moins se répare, on veut bien se croire obligé pour l'avoir obtenu. Et nul ne se juge redevable du temps qu'on lui donne, de ce seul trésor que la meilleure volonté ne peut rendre. Tu demanderas peut-être comment je fais, moi qui t'adresse ces beaux préceptes. Je l'avouerai franchement, je fais comme un homme de grand luxe, mais qui a de l'ordre. Je tiens note de ma dépense. Je ne puis me flatter de ne rien perdre, mais ce que je perds est le pourquoi et le comment je puis le dire. Je puis rendre compte de ma gêne. Puis, il m'arrive, comme à la plupart des gens ruinés sans que ce soit leur faute, chacun les excuse, personne ne les aide. Mais quoi? Je n'estime point pauvre l'homme qui, si peu qu'il lui demeure, est content. Pourtant, j'aime mieux te voir veiller sur ton bien, et le moment est bon pour commencer. Comme l'ont en effet jugé nos pères, ménager le fond du vase, c'est s'y prendre tard, car la partie qui reste la dernière est non seulement la moindre, mais la pire. Lettre 2. Des voyages et de la lecture. Ce que tu m'écris et ce que j'apprends me fait bien espérer de toi. Tu ne cours pas ça et là, et ne te jette pas dans l'agitation des déplacements. Cette mobilité est d'un esprit malade. Le premier signe, selon moi, d'une âme bien réglée, est de se fixer, de séjourner avec soi. Or, prends-y garde. La lecture d'une foule d'auteurs et d'ouvrages de tout genre pourrait tenir du caprice et de l'inconstance. Fais un choix d'écrivain pour t'y arrêter et te nourrir de leur génie, si tu veux y puiser des souvenirs qui te soient fidèles. Ce n'est n'être nulle part que d'être partout. Ceux dont la vie se passe à voyager finissent par avoir des milliers d'hôtes et pas un ami. Même chose arrive nécessairement à qui néglige de lier commerce avec un auteur favori pour jeter en courant un coup d'œil rapide sur tous à la fois. La nourriture ne profite pas, ne s'assimile pas au corps si elle est rejetée aussitôt que prise. Rien n'entrave une guérison comme de changer sans cesse de remède. On n'arrive point à cicatriser une plaie où les appareils ne sont qu'essayés. On ne fortifie pas un arbuste par de fréquentes transplantations. Il n'est chose si utile qui puisse l'être en passant. La multitude des livres dissipe l'esprit. Ainsi, ne pouvant lire tous ceux que tu aurais, c'est assez d'avoir ceux que tu peux lire. Mais j'aime à feuilleter tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est le fait d'un estomac affadi de ne goûter qu'un peu de tout. Ces aliments divers et qui se combattent l'encrassent. Ils ne nourrissent point. Lis donc habituellement les livres les plus estimés. Et si parfois tu en prends d'autres, comme distraction, par fantaisie, reviens vite au premier. Fais chaque jour provision de quelque arme contre la pauvreté, contre la mort, contre tous les autres fléaux. Et de plusieurs pages parcourues, choisis une pensée pour la bien digérer ce jour-là. C'est aussi ce que je fais. Dans la foule des choses que j'ai lues, je m'empare d'un trait unique. Voici mon butin d'aujourd'hui. C'est chez Épicure que je l'ai trouvé. Car j'ai coutume aussi de mettre le pied dans le camp ennemi, non comme transfuge, mais comme éclaireur. La belle chose, s'écrit-il, que le contentement dans la pauvreté. Mais il n'y a plus pauvreté s'il y a contentement. Ce n'est point d'avoir peu, c'est de désirer plus qu'on est pauvre. Qu'importe combien cet homme a dans ses coffres, combien dans ses greniers, ce qu'il engraisse de troupeaux, ce qu'il touche d'intérêt, s'il dévore en espoir le bien d'autrui, s'il suppute non ce qu'il a acquis, mais ce qu'il voudrait acquérir. Quelle est la mesure de la richesse, diras-tu? D'abord, le nécessaire, ensuite, ce dont on se contente. Lettre 3. Du choix des amis. Tu as chargé de lettres pour moi, à ce que tu m'écris, un de tes amis. Puis, tu me préviens de ne pas lui communiquer tout ce qui te touche, attendu que toi-même n'es point dans l'habitude de le faire. Ainsi, dans la même lettre, tu le reconnais pour ami et tu le désavoues. Ainsi, ce mot par où tu débutes était une formule banale. Tu disais mon ami, comme on dit l'honorable homme de tout candidat possible, comme le passant dont le nom ne nous revient pas et salué par nous du titre de maître. Pour cela, passe. Mais si tu tiens pour ami l'homme en qui tu n'as pas autant de foi qu'en toi-même, ton erreur est grave. Et tu connais peu le grand caractère de la véritable amitié. Délibère sur tout avec l'homme de ton choix, mais sur lui-même au moment de choisir. Ami, sois confiant. Avant d'être ami, sois juge. Or, ils prennent au rebours et intervertissent leurs devoirs ceux qui, contrairement aux préceptes de Théophraste, n'examinent qu'après s'être attaché et se détache après l'examen. Réfléchis longtemps sur l'adoption d'un ami. Une fois décidé, ouvre toute ton âme pour le recevoir. Parle aussi hardiment devant lui qu'à toi-même. Vis en sorte que tu n'aies rien à t'avouer qui ne puisse l'être même à ton ennemi. Mais comme il survient de ces choses, que l'usage de tenir caché, avec ton ami du moins, que tous tes soucis, toutes tes pensées soient en commun. Le jugé discret sera l'obligé à l'être. Certaines gens ont enseigné à les tromper en craignant qu'on ne les trompe pas, et donné par leurs soupçons le droit de les trahir. Et pourquoi donc ces réticences devant un ami? Pourquoi, près de lui, ne me croirais-je pas seule? Ce qui ne doit se confier qu'à l'amitié, certains hommes le comptent à tout venant. Toute oreille leur est bonne pour y décharger le secret qui les brûle. D'autres, en revanche, redouteraient pour confident jusqu'à ceux qu'ils chérissent le plus, et, s'il se pouvait, ne suffiraient pas à eux-mêmes. Ils refoulent au plus profond de leur âme leur moindre secret. Fuyons ces deux excès, car c'en est un de se livrer à tous comme de ne se livrer à personne. Seulement le premier me paraît plus honorable, le second plus sûr. De même, il faut blâmer tout ensemble et une mobilité toujours inquiète et une continuelle inaction. L'amour du tracas n'est point de l'activité. C'est une fièvre, un vagabondage d'esprit. Comme le repos n'est point cet état qui juge tout mouvement un supplice, il y a là énervement et marasme. Voici là-dessus ce que j'ai lu dans Pomponius. Je le livre à tes réflexions. Il y a des gens qui se sont tellement réfugiés dans les ténèbres que tout leur paraît trouble au grand jour. Il faut entremêler les deux choses. L'homme oisif doit aussi agir et l'homme agissant se reposer. Consulte la nature. Elle te dira qu'elle a créé le jour et la nuit. Lettre 4. Sur la crainte de la mort. Persévère dans ta voie et hâte-toi de toutes tes forces pour jouir plus longtemps de l'heureuse réforme d'une âme rendue à la paix. C'est jouir déjà, sans doute, que de travailler à cette réforme et à cette paix. Mais bien autre est la volupté qu'on éprouve à contempler son âme pure de toute tache et resplendissante. Il te souvient, n'est-ce pas, quelle joie tu ressentis lorsqu'ayant quitté la prétexte, tu pris la toge virile et fus mené en pompe au forum. Attends-toi à mieux pour le jour où, dépouillant toute marque de l'enfance morale, tu seras inscrit par la philosophie au rang des hommes. Nous ne sommes plus jeunes, mais, chose plus triste, nos âmes le sont toujours. Et ce qui est pire, sous l'air imposant du vieillage, nous gardons les défauts de la jeunesse, et non de la jeunesse seulement, mais de l'enfance même. La première s'effraie de peu, la seconde de ce qui n'est pas, nous de l'un et de l'autre. Fais seulement un pas, et tu reconnaîtras qu'il est des choses d'autant moins à craindre qu'elles effraient davantage. Il n'est jamais grand le mal qui termine tous les autres. La mort vient à toi. Il faudrait la craindre si elle pouvait séjourner en toi. Nécessairement, ou elle n'arrive point, ou c'est un éclair qui passe. Il est difficile, dis-tu, d'amener notre âme au mépris de la vie. Et vois quel frivole motif inspire quelquefois ce mépris. Un amant court se pendre à la porte de sa maîtresse. Un serviteur se précipite d'un toit pour ne plus ouïr les reproches emportés d'un maître. Un esclave fugitif, de peur d'être ramené, se plonge un glaive dans le sein. Douteras-tu que le vrai courage ne fasse ce que fait l'excès de la peur? Nul ne saurait vivre en sécurité s'il songe trop à vivre longtemps, s'il compte parmi les grandes félicités de voir une nombreuse série de consuls. Que tes méditations journalières tendent à quitter sans regret cette vie que tant d'hommes embrassent et saisissent, comme le malheureux qu'entraîne un torrent s'accroche aux ronces et aux pointes des rochers. La plupart flottent misérablement entre les terreurs de la mort et les tourments de l'existence. Ils ne veulent plus vivre et ne savent point mourir. Veux-tu que la vie te soit douce? Ne sois plus inquiet de la voir finir. La possession ne plaît qu'autant qu'on s'est préparé d'avance à la perte. Or, quelle perte plus facile à souffrir que celle qui ne se regrette point? Exhorte donc, endurcis ton âme contre tous les accidents possibles même chez les maîtres du monde. L'arrêt de mort de Pompée fut porté par un roi pupille et par un eunuque. Celui de Crassus par l'insolente cruauté d'un éparte. Caligula commande et Lépidus présente la tête au glaive du tribun Dexter. Lui-même tendra la sienne à Chéréas. Jamais la fortune n'élève un homme tellement haut qu'elle ne le menace d'autant de maux qu'elle l'a mis à portée d'enfer. Défie-toi du calme présent. Un instant bouleverse la mer. Le même jour, la même où il se jouait, les vaisseaux s'engloutissent. Songe qu'un brigand, qu'un ennemi, te peut mettre l'épée sur la gorge, qu'à défaut des puissants de la terre, le dernier esclave a sur toi droit de vie et de mort. En effet, qui méprise sa vie est maître de la tienne. Parcours la liste de ceux qui périrent par embûche domestique, par force ouverte ou trahison. Tu verras que la colère des esclaves n'a pas fait moins de victimes que celle des rois. Que t'importe, ô homme, le plus ou le moins de puissance de celui que tu crains, quand le mal que tu crains tout autre le peut faire? Mais si le hasard te jette aux mains de tes ennemis, le vainqueur te fera conduire. Et certes, où tu vas? Pourquoi t'abuser toi-même et reconnaître seulement ici la fatalité que tu subis depuis longtemps? Entends-moi bien. Du jour où tu es né, c'est à la mort que tu marches. Voilà quelle sorte de pensée il faut rouler dans son esprit si l'on veut attendre en paix cette heure dernière dont la frayeur trouble toutes les autres. Mais, pour terminer ma lettre, écoute la maxime qui m'a plu aujourd'hui. Encore une fleur dérobée au jardin d'autrui. C'est une grande fortune que la pauvreté réglée sur la loi de la nature. Or, cette loi, sais-tu à quoi elle borne nos besoins? À ne point pâtir de la faim, de la soif, du froid. Pour chasser la faim et la soif, il n'est pas nécessaire d'assiéger un seuil orgueilleux, ni d'endurer un écrasant dédain ou une politesse insultante. Il n'est pas nécessaire de s'aventurer sur les mers ni de suivre les camps. Aisément on se procure ce que la nature réclame. La chose est à notre portée. C'est pour le superflu que l'on sue. C'est le superflu qui nous use sous la toge, qui nous condamne à vieillir sous la tente, qui nous envoie échouer aux côtes étrangères. Et l'on a sous la main ce qui suffit. Qui s'accommode de sa pauvreté est riche. Lettre 5. De la philosophie d'ostentation et de la vraie philosophie. La crainte et l'espérance. Opiniâtrement livré à l'étude et laissant tout le reste, tu ne travailles qu'à te rendre chaque jour meilleur, je t'en approuve et je m'en réjouis. Je ne t'exhorte pas à persévérer. Je fais plus, je t'en prie. Mais écoute un avis. N'imite point ces hommes, moins curieux de faire des progrès que du bruit. Que rien dans ton extérieur ou ton genre de vie n'appelle sur toi les yeux. Étaler une mise repoussante, une chevelure en désordre, une barbe négligée, déclarer la guerre à l'argenterie, établir son lit sur la dure, courir enfin après un nom par les voies les moins naturelles, fuis tout cela. Ce titre de philosophe, si modestement qu'on le porte, est bien assez impopulaire. Que sera-ce si nos habitudes nous retranchent tout d'abord du reste des hommes? Je veux, au-dedans, dissemblance complète. Au-dehors, soyons comme tout le monde. Point de toge brillante, ni sordide non plus. Sans posséder d'argenterie où l'or massif serpente en ciselure, ne croyons pas que ce soit preuve de frugalité que de n'avoir ni or ni argent chez soi. Ayons des façons d'être meilleures que celles de la foule, mais non pas tout autre. Sinon, nous allons faire fuir et nous aliéner ceux que nous prétendons réformer. Nous serons cause, en outre, que nos partisans ne voudront nous imiter en rien, de peur d'avoir à nous imiter en tout. La philosophie a pour principe et pour drapeau le sens commun, l'amour de nos semblables. Nous démentirons cette devise si nous faisons divorce avec les humains. Prenons garde, en cherchant l'admiration, de tomber dans le ridicule et l'odieux. N'est-il pas vrai que notre but est de vivre selon la nature? Or, il est contre la nature de s'imposer des tortures physiques, d'avoir horreur de la plus simple toilette, d'affectionner la malpropreté et des mets non seulement grossiers, mais qui répugnent au goût et à la vue. De même que rechercher les délicatesses de la table s'appelle sensualité, fuir des jouissances tout ordinaires et peu coûteuses est de la folie. La philosophie veut qu'on soit tempérant, non bourreau de soi-même. Et la tempérance n'exclut pas un certain après. Voici où j'aime que l'on s'arrête. Je voudrais un milieu entre la vertu parfaite et les murs du siècle, et que chacun, tout en nous voyant plus haut que soi, se reconnut en nous. Qu'est-ce à dire? Ferons-nous donc comme tous les autres? Point de différence de nous aux vulgaires? Il y en aura certes une grande, et qui nous examinera de près la sentira bien. Si l'on entre chez nous, que l'admiration soit plutôt pour le maître que pour les meubles. Il y a de la grandeur à se servir d'argile comme on se servirait d'argenterie. Il n'y en a pas moins à se servir d'argenterie comme si c'était de l'argile. C'est faiblesse d'âme de ne pouvoir supporter les richesses. Mais pour te faire participer encore à la petite aubaine de ce jour, j'ai lu chez Hécaton, l'un des nôtres, que la mort des désirs profite aussi comme remède de la peur. Tu cesseras de craindre, dit-il, si tu as cessé d'espérer. Tu demandes combien de choses si opposées peuvent aller ensemble. Eh bien oui, cher Lucilius, en apparence divisées, elles sont étroitement unies, tout comme la même chaîne attache le soldat à son prisonnier. Ainsi, ces affections si dissemblables marchent de compagnie. Après l'espérance, la crainte. Je ne m'étonne pas qu'il en aille ainsi. Toutes deux sont filles de l'incertitude. toutes deux en attente, en souci de ce qui adviendra. Mais ce qui surtout les fait naître, c'est qu'on ne s'arrange pas du présent. C'est qu'on lance bien au loin ses pensées dans l'avenir. Ainsi, la prévoyance, l'un de nos plus grands biens sur cette terre, s'est tourné en mal. L'animal voit le danger et le fuit. Le danger s'éloigne, sa sécurité renaît. Nous, l'avenir nous torture en même temps que le passé. Que de choses salutaires à l'homme sont pour l'homme des poisons. Sa mémoire lui ramène les angoisses de la peur. Sa prévoyance les anticipe. Nul n'a assez des misères du présent. Lettre 6. De la véritable amitié. Je sens, Lucilius, non seulement que je m'amende, mais que je me transforme. Je n'ose garantir ni espérer que je n'ai plus rien à changer en moi. Qui suis-je pour qu'il n'y reste plus nombre de penchants à contenir, à affaiblir, à fortifier? C'est même une preuve de son heureuse métamorphose que notre âme découvre en soi des défauts qu'elle ne savait point encore. Il est des malades que l'on félicite de bien connaître leur mal. Que je voudrais faire passer en toi le changement subi que j'éprouve. Alors, je commencerai à prendre une confiance plus ferme en notre amitié. Cette amitié vraie, que ni espoir, ni crainte, ni vue d'intérêt privé ne peuvent rompre. Cette amitié qui ne meurt qu'avec l'homme, et pour laquelle l'homme sait mourir. Je te citerai bien des gens chez qui les amis n'ont point manqué, mais bien l'amitié. Pareille chose ne peut arriver aux âmes qu'associe la passion de l'honnête et qu'un même vouloir entraîne. Comment n'en serait-il pas ainsi? Elles savent qu'entre elles, tout est commun, les malheurs plus que tout le reste. Tu ne peux mesurer en idées ce que chaque jour m'apporte de progrès visible pour moi. Tu vas me dire de t'envoyer aussi cette recette dont l'épreuve m'a été si efficace. Oui, vraiment, j'aspire à verser mon trésor tout entier dans ton âme. Et si je me réjouis d'apprendre, c'est pour enseigner. Et nulle découverte ne me charmerait, quelque précieuse et salutaire qu'elle fût, si je la devais garder pour moi seule. Que la sagesse me soit donnée à condition de la renfermer en moi et de ne pas révéler ses oracles, je la refuserai. Toute jouissance qui n'est point partagée perd sa douceur. Je t'enverrai donc les livres mêmes. Et pour que tu n'aies pas trop de peine à y chercher ça et là ce qui doit te servir, j'y ferai des remarques qui te mèneront incontinent aux endroits que j'approuve et que j'admire. Mais nous parler de vive voix et vivre ensemble te profitera plus qu'un discours écrit. Viens voir par toi-même, il le faut. D'abord, parce qu'on en croit bien plus ses yeux que ses oreilles. Ensuite, la voie du précepte est longue, celle de l'exemple courte et efficace. Cléante n'eût pas si bien reproduit Zénon s'il n'eût fait que l'entendre. Il fut le témoin de sa vie, il en pénétra les secrets détails, il observa si sa morale servait de règle à sa conduite. Platon, Aristote et tous ses chefs futurs de sectes opposées recueillirent plus de fruits des mœurs de Socrate que de ses discours. Métrodore, Hermacus et Polyaénos sortirent grands hommes moins de l'école d'Épicure que de son intimité. Mais si je te presse de venir, ce n'est pas pour tes progrès seuls, c'est aussi pour les miens. Le profit sera grand et réciproque entre nous. En attendant, comme je te dois mon petit tribut quotidien, voici ce qui m'a aujourd'hui charmé dans Hécaton. Tu demandes quel progrès j'ai fait? Je commence à être l'ami de moi-même. C'est un grand pas. Hécaton ne sera plus seul. Un tel homme, sois-en sûr, est l'ami de tous les hommes. Lettre 7. Fuir la foule. Cruauté des spectacles de gladiateurs. Tu me demandes ce que tu dois principalement éviter. La foule. Tu ne peux encore t'y livrer impunément. Moi, pour mon compte, j'avouerai ma faiblesse. Jamais je ne rentre chez moi tel que j'en suis sorti. Toujours quelque trouble que j'avais assoupi en moi se réveille, quelque tentation chassée reparaît. Ce qu'éprouvent ces malades réduits par un long état de faiblesse à ne pouvoir sans accident quitter le logis, nous arrive à nous de qui l'âme est convalescente d'une longue maladie. Il n'est pas bon de se répandre dans une nombreuse société. Là, tout nous prêche le vice ou nous l'imprime, ou à notre insu, nous entache. Et plus nos liaisons s'étendent, plus le danger se multiplie. Mais rien n'est funeste à la morale comme l'habitude des spectacles. C'est là que les vices nous surprennent plus aisément par l'attrait du plaisir. Que penses-tu que je veuille dire? Que j'en sors plus attaché à l'argent, à l'ambition, à la mollesse, ajoute même plus cruel et plus inhumain pour avoir été au milieu des hommes. Le hasard vient de me conduire au spectacle de midi. Je m'attendais à des jeux, à des facéties, à quelques délassements qui reposent les yeux du sang humain. Loin de là, tous les combats précédents avaient été pure clémence. Cette fois, plus de badinage. C'est l'homicide dans sa crudité. Le corps n'a rien pour se couvrir. Il est tout entier exposé aux coups, et pas un ne porte à faux. La foule préfère cela aux gladiateurs ordinaires et même extraordinaires. Et n'a-t-elle pas raison? Ni casque ni bouclier qui repousse le fer. À quoi servent ces armures, cette escrime, toutes ces ruses? À marchander avec la mort. Le matin, c'est aux lions et aux ours qu'on livre des hommes. À midi, c'est aux spectateurs. On met aux prises ceux qui ont tué avec d'autres qui les tueront, et tout vainqueur est réservé pour une nouvelle boucherie. L'issue de la lutte est la mort, le fer et le feu font la besogne. Cela pour occuper les intermèdes. Mais cet homme-ci a commis un vol. Eh bien, il mérite le gibet. C'est un assassin. Tout assassin doit subir la peine du talion. Mais toi, qu'as-tu fait, malheureux, qui te condamne à un tel spectacle? Les fouets, le feu, la mort, s'écrit-on. En voilà un qui s'enferre trop mollement, qui tombe avec peu de fermeté, qui meurt de mauvaise grâce. Le fouet les renvoie aux blessures. Et des deux côtés, ces poitrines nues doivent d'elles-mêmes s'offrir aux coups. Le spectacle est-il suspendu? Par passe-temps qu'on égorge encore, pour ne pas être à ne rien faire. Romains, ne sentez-vous donc pas que l'exemple du mal retombe sur ceux qui le donnent? Rendez grâce aux dieux immortels. Il vous laisse enseigner la cruauté à celui qui ne peut l'apprendre. Il faut sauver de l'influence populaire un esprit trop tendre encore et peu ferme dans la bonne voie. Aisément, il passe du côté de la foule. Socrate, Caton, Lélius, eussent pu voir leurs vertus entraînées par le torrent de la corruption. Et nous, encore en pleine lutte contre nos penchants déréglés, nous saurions soutenir le choc des vices qui viennent à nous en si grande compagnie? Un seul exemple de prodigalité ou de lésine fait beaucoup de mal. Un commensal au goût raffiné peu à peu nous effémine et nous amollit. Le voisinage d'un riche irrite la cupidité. La rouille de l'envie se communique par le contact au cœur le plus net et le plus franc. Que penses-tu qu'il arrive de tes mœurs en butte aux assauts de tout un peuple? Forcément, tu seras son imitateur ou son ennemi. Double écueil qu'il faut éviter. Ne point ressembler aux méchants parce qu'ils sont le grand nombre. Ne point haïr le grand nombre parce qu'ils diffèrent de nous. Recueille-toi en toi-même autant que possible. Fréquente ceux qui te rendront meilleur. Reçois ceux que tu peux rendre tels. Il y a ici réciprocité, et l'on n'enseigne pas qu'on ne s'instruise. Garde qu'une vaine gloriole de publicité n'entraîne ton talent à se produire devant un auditoire peu digne, pour y lire ou pour disserter. Ce que je te laisserais faire si tu avais pour ce peuple-là quelques denrées de son goût. Mais aucun ne te comprendrait, hormis peut-être un ou deux par hasard. Encore faudrait-il les former toi-même, les élever à te comprendre. Et pourquoi ai-je tant appris? N'aie point peur que ta peine soit perdue. Tu as appris pour toi. Mais pour ne pas profiter seul de ce que j'ai appris aujourd'hui, je te ferai part de ce que j'ai trouvé. Ce sont trois belles paroles, à peu près sur ce même sujet. L'une paiera la dette de ce jour. Tu prendras les deux autres comme avance. Démocrite a dit « Un seul homme est pour moi le public, et le public un seul homme. » J'approuve encore, quel qu'en soit l'auteur, car on n'est pas d'accord sur ce point, la réponse d'un artiste auquel on demandait pourquoi il soignait tant des ouvrages que si peu d'hommes seraient appelés à connaître. C'est assez de peu, assez d'un, assez de pas un. Le troisième mot, non moins remarquable, est d'Épicure. Il écrivait à l'un de ses compagnons d'études « Ceci n'est pas pour la multitude, mais pour toi, car nous sommes l'un pour l'autre un assez grand théâtre. » Garde cela, Lucilius, au plus profond de ton âme, et tu dédaigneras ce chatouillement qu'excite la louange sortant de plusieurs bouches. La foule t'applaudit. Et qu'as-tu à te complaire si tu es de ces hommes que la foule comprend? C'est au-dedans de toi que tes mérites doivent briller. Lettre 8. Travail du sage sur lui-même, mépris des biens extérieurs. Quand je te presse de fuir le monde pour la retraite et de te borner au témoignage de ta conscience, tu me dis « Que deviennent vos grands préceptes qui veulent que la mort nous trouve en action ?» Quoi, jusqu'ici, te semblais-je inoccupé? Je ne me suis séquestré, je n'ai fermé ma porte que pour être utile à un plus grand nombre, aucun de mes jours ne s'écoule à rien faire. Mes études prennent une portion de mes nuits. Je succombe au sommeil plutôt que je ne m'y livre. Et quand mes paupières, lasses de veiller, s'affaissent, je les retiens encore au travail. J'ai dit adieu tout à la fois aux hommes et aux affaires, à commencer par les miennes. C'est au profit de la postérité que je travaille. C'est pour elle que je rédige quelques utiles leçons, quelques salutaires avertissements, comme autant de recettes précieuses que je confie au papier, pour en avoir éprouvé la vertu sur mes propres plaies. Car, si la guérison n'a pas été complète, le mal a cessé de s'étendre. Le droit chemin que j'ai connu tard, et lorsque j'étais là, adhéré, je l'indique aux autres, je leur crie. Évitez tout ce qui séduit le vulgaire, tout ce que le hasard dispense. Tenez tous ces dons pour suspects, et tremblez d'y toucher. L'habitant des bois ou de l'onde se laisse prendre à l'appât qui la lèche. Les présents de la fortune, comme vous les appelez, sont ses pièges. Qui veut vivre à l'abri de ses coups devra fuir au plus loin la glu perfide de ses faveurs. Car ici, trop malheureuse dupe, nous croyons prendre et nous sommes pris. Cette course rapide vous mène aux abîmes. Cette éminente position a pour terme la chute. Et s'arrêter n'est plus possible dès qu'une fois l'on cède au vertige de la prospérité. Ou jouis au moins de tes actes, ou jouis de toi-même. Ainsi, la fortune ne culbute point l'homme, elle le courbe et le froisse seulement. Un plan de vie aussi profitable au physique qu'au moral et qu'il faut garder, c'est de n'avoir de complaisance pour le corps que ce qui suffit pour la santé. Il le faut durement traiter, de peur qu'il n'obéisse mal à l'esprit. Le manger doit seulement apaiser la faim, le boire éteindre la soif, le vêtement garantir du froid, le logement abriter contre l'inclémence des saisons. Qu'il soit construit de gazon ou de marbre étranger de nuances diverses, il n'importe. Sachez tous qu'on est aussi bien à couvert sous le chaume que sous l'or. Méprisez toutes ces laborieuses superfluités qu'on appelle ornements et décorations. Dites-vous bien que dans l'homme, rien n'est admirable que l'âme, que pour une âme grande, rien n'est grand. Si je me parle ainsi à moi et à la postérité, ne te semblais-je pas plus utile que si j'allais au forum cautionner quelqu'un sur sa demande, à poser mon sceau sur des tablettes testamentaires, ou dans le Sénat, appuyer un candidat de la voix et du geste? Crois-moi, tels qui paraissent ne rien faire font plus que bien d'autres. Ils sont ouvriers de la terre et du ciel tout ensemble. Mais il faut finir, et selon mon engagement, payer pour cette lettre. Ce ne sera pas de mon cru. C'est encore Épicure que je feuillette, et où j'ai lu aujourd'hui cette maxime. Fais-toi l'esclave de la philosophie pour jouir d'une vraie indépendance. Elle n'ajourne pas celui qui se soumet, qui se livre à elle. Il est tout d'abord affranchi. Car l'obéissance à la philosophie, c'est la liberté. Peut-être veux-tu savoir pourquoi je cite tant d'heureux emprunts d'Épicure plutôt que des nôtres. Et pourquoi, toi-même, les attribuerais-tu à Épicure plutôt qu'au domaine public? Que de choses chez les poètes que les philosophes ont dites ou devaient dire. Sans toucher au tragique ou au drame romain, car ce dernier genre comporte aussi quelque gravité et tient le milieu entre le comique et le tragique, combien de vers et des plus éloquents dans les mimes où ils sont perdus? Combien de mots du Publius, dignes non de bateleurs déchaussés, mais de tragédiens en cothurne? Voici un de ces vers qui appartient à la philosophie et au point même touché tout à l'heure. Il nie que les dons du hasard doivent être comptés comme à nous. C'est au sort qu'appartient ce qu'obtinrent tes vœux. Tu l'as dit en un vers, beaucoup meilleur et plus serré, je me le rappelle. Ce qu'a fait le hasard pour toi n'est pas à toi. Et ce trait plus heureux encore est que je ne puis omettre. On peut ravir le bien que l'on a pu donner. Je n'impute point ceci à ma décharge. Je te paye sur ton bien. Lettre 8. Travail du sage sur lui-même, mépris des biens extérieurs. Quand je te presse de fuir le monde pour la retraite et de te borner au témoignage de ta conscience, tu me dis « Que deviennent vos grands préceptes qui veulent que la mort nous trouve en action ?» Quoi, jusqu'ici, te semblais-je inoccupé ? Je ne me suis séquestré, je n'ai fermé ma porte que pour être utile à un plus grand nombre, aucun de mes jours ne s'écoule à rien faire. Mes études prennent une portion de mes nuits. Je succombe au sommeil plutôt que je ne m'y livre. Et quand mes paupières, lasses de veiller, s'affaissent, je les retiens encore au travail. J'ai dit adieu tout à la fois aux hommes et aux affaires, à commencer par les miennes. C'est au profit de la postérité que je travaille. C'est pour elle que je rédige quelques utiles leçons, quelques salutaires avertissements, comme autant de recettes précieuses que je confie au papier, pour en avoir éprouvé la vertu sur mes propres plaies. Car, si la guérison n'a pas été complète, le mal a cessé de s'étendre. Le droit chemin, que j'ai connu tard et lorsque j'étais là d'errer, je l'indique aux autres, je leur crie. Évitez tout ce qui séduit le vulgaire, tout ce que le hasard dispense. Tenez tous ces dons pour suspects et tremblez d'y toucher. L'habitant des bois ou de l'onde se laisse prendre à l'appât qui la lèche. Les présents de la fortune, comme vous les appelez, sont ses pièges. Qui veut vivre à l'abri de ses coups devra fuir au plus loin l'aglu perfide de ses faveurs. Car ici, trop malheureuse dupe, nous croyons prendre et nous sommes pris. Cette course rapide vous mène aux abîmes. Cette éminente position a pour terme la chute. Et s'arrêter n'est plus possible dès qu'une fois l'on cède au vertige de la prospérité. Ou jouis au moins de tes actes, ou jouis de toi-même. Ainsi, la fortune ne culbute point l'homme, elle le courbe et le froisse seulement. Un plan de vie aussi profitable au physique qu'au moral et qu'il faut garder, c'est de n'avoir de complaisance pour le corps que ce qui suffit pour la santé. Il le faut durement traiter de peur qu'il n'obéisse mal à l'esprit. Le manger doit seulement apaiser la faim, le boire éteindre la soif, le vêtement garantir du froid, le logement abriter contre l'inclémence des saisons. Qu'il soit construit de gazon ou de marbre étranger de nuances diverses, il n'importe. Sachez tous qu'on est aussi bien à couvert sous le chaume que sous l'or. Méprisez toutes ces laborieuses superfluités qu'on appelle ornements et décorations. Dites-vous bien que dans l'homme, rien n'est admirable que l'âme, que pour une âme grande, rien n'est grand. Si je me parle ainsi à moi et à la postérité, ne te semblais-je pas plus utile que si j'allais au forum cautionner quelqu'un sur sa demande, à poser mon sceau sur des tablettes testamentaires, ou dans le Sénat, appuyer un candidat de la voix et du geste. Crois-moi, tels qui paraissent ne rien faire font plus que bien d'autres. Ils sont ouvriers de la terre et du ciel tout ensemble. Mais il faut finir, et selon mon engagement, payer pour cette lettre. Ce ne sera pas de mon cru. C'est encore Épicure que je feuillette et où j'ai lu aujourd'hui cette maxime. Fais-toi l'esclave de la philosophie pour jouir d'une vraie indépendance. Elle n'ajourne pas celui qui se soumet, qui se livre à elle. Il est tout d'abord affranchi, car l'obéissance à la philosophie, c'est la liberté. Peut-être veux-tu savoir pourquoi je cite tant d'heureux emprunts d'Épicure plutôt que des nôtres? Et pourquoi toi-même les attribuerais-tu à Épicure plutôt qu'au domaine public? Que de choses chez les poètes, que les philosophes ont dites ou devaient dire! Sans toucher au tragique ou au drame romain, car ce dernier genre comporte aussi quelque gravité, et tient le milieu entre le comique et le tragique, combien de vers et des plus éloquents dans les mimes où ils sont perdus! Combien de mots du Publius, dignes non de bateleurs déchaussés, mais de tragédiens en cothurne! Voici un de ces vers qui appartient à la philosophie, et au point même touché tout à l'heure. Il nie que les dons du hasard doivent être comptés comme à nous. C'est au sort qu'appartient ce qu'obtinrent tes vœux. Tu l'as dit en un vers beaucoup meilleur et plus serré, je me le rappelle. Ce qu'a fait le hasard pour toi n'est pas à toi. Et ce trait plus heureux encore est que je ne puis omettre. On peut ravir le bien que l'on a pu donner. Je n'impute point ceci à ma décharge. Je te paye sur ton bien. Lettre 9. Pourquoi le sage se fait des amis? Épicure a-t-il raison de blâmer dans une de ses lettres ceux qui disent que le sage se suffit à lui-même et partant n'a pas besoin d'amis? Voilà ce que tu veux savoir. Épicure s'attaquait à Stilpon et à ceux qui voient le bien suprême dans une âme qui ne souffre de rien. L'ambiguïté est inévitable si nous voulons rendre apatheian par un seul mot précis et mettre inpatientiam, car on pourra comprendre le contraire de ce que nous donnons à entendre. Nous voulons désigner l'homme qui repousse tout sentiment du mal, et l'on entendrait de celui pour qui tout mal est insupportable. Vois donc s'il n'est pas mieux de dire une âme invulnérable ou une âme placée en dehors de toute souffrance. Voici en quoi nous différons des mégariques. Notre sage est invincible à toutes les disgrâces, mais il n'y est pas insensible. Le leur ne les sent même pas. Le point commun entre eux et nous, c'est que le sage se suffit. Toutefois, il désire en outre les douceurs de l'amitié, du voisinage, du même toit, bien qu'il trouve en soi assez de ressources. Il se suffit si bien à lui-même que souvent une partie de lui-même lui suffit. S'il perd une main par la maladie ou sous le fer de l'ennemi, qu'un accident le prive d'un œil, il est satisfait de ce qui lui reste. Mutilé et retranché ses membres, il demeurera aussi serein que quand il les avait intacts. Les choses qui lui manquent, il ne les regrette pas, mais il préfère n'en pas être privé. Si le sage se suffit, ce n'est pas qu'il ne veuille point d'amis, c'est qu'il peut s'en passer. Et quand je dis qu'il le peut, j'entends qu'il en souffre patiemment la perte. Il ne sera jamais sans un ami. Il est maître de le remplacer sitôt qu'il le veut. Comme Phidias, s'il perd une statue, en aura bientôt fait une autre, ainsi le sage, ce grand artiste en amitié, trouve à remplir la place vacante. Comment, dis-tu, peut-il faire si vite un ami? Je te le dirai, si tu veux bien, que dès à présent je te paye ma dette, et que pour cette lettre nous soyons quittes. Et Caton a dit: voici une recette pour se faire aimer, sans drogue, ni herbe, ni parole magique de sorcière. Aimez, on vous aimera. Ce qu'il y a de différence pour l'agriculteur entre moissonner et semer existe entre tel qui s'est fait un ami et tel qui s'en fait un. Le philosophe Attal disait souvent « Il est plus doux de faire que d'avoir un ami. » Comme l'artiste jouit plus à peindre son tableau qu'à l'avoir peint. Occupé qu'il est à son œuvre avec tant de sollicitude, que d'attrait pour lui dans cette occupation même. L'enchantement n'est plus si vif quand, l'œuvre finie, sa main a quitté la toile. Alors il jouit du fruit de son art. Il jouissait de l'art même lorsqu'il tenait le pinceau. Dans nos enfants, l'adolescence porte plus de fruits, mais leurs premiers ans charment davantage. Revenons à notre propos. Le sage, bien qu'il se suffise, n'en désire pas moins un ami, ne fût-ce que pour exercer l'amitié, pour qu'une si belle vertu ne reste pas sans culture, et non, comme Épicure le dit dans sa lettre, pour avoir qui veille à son lit de douleur, qui le secourt dans les fers ou dans le besoin. Mais un homme qui, malade, soit assisté par lui, et qui, enveloppé d'ennemis, soit sauvé par lui de leurs fers. Ne voir que soi, n'embrasser l'amitié que pour soi, méchant calcul. Elle finira comme elle a commencé. On a voulu s'assurer d'un auxiliaire contre la captivité. Mais, au premier bruit de chaîne, plus d'amis. Ce sont amitiés du moment, comme dit le peuple. Choisis dans votre intérêt, je vous plais tant que je vous sers. De là, cette foule d'amis autour des fortunes florissantes. Abattus, quelle solitude! Les amis fuient les lieux d'épreuve. De là, tant de ces déloyaux exemples, de ces lâchetés qui vous abandonnent, de ces lâchetés qui vous trahissent. Il faut bien que le début et le dénouement se répondent. Qui s'est fait ami par intérêt sera séduit par quelque avantage contraire à cette amitié, si, en elle, une autre chose qu'elle l'attirait. Pourquoi est-ce que je prends un ami ? Afin d'avoir pour qui mourir, d'avoir qui suivre en exil, de qui sauver les jours s'il le faut, aux dépens des miens. Cette autre union que tu me dépeins est un trafic, ce n'est pas l'amitié. Un profit l'appelle, il y va. Le gain à faire, voilà son but. Nul doute qu'il y ait quelque ressemblance entre cette vertu et l'affection des amants. L'amour peut se définir la folie de l'amitié. Eh bien, éprouve-t-on jamais cette folie dans un but de lucre, par ambition, par vanité? C'est par son propre feu que l'amour, insoucieux de tout le reste, embrase les âmes pour la beauté physique, non sans espoir d'une mutuelle tendresse. Et quoi? Un principe plus noble produirait-il une affection honteuse? Il ne s'agit pas ici, dis-tu, de savoir si l'amitié est à rechercher pour elle-même ou dans quelque autre vue. Si c'est pour elle-même, celui-là peut s'approcher d'elle qui trouve son contentement en soi. Et de quelle manière s'en approche-t-il? Comme de la plus belle des vertus, sans que le lucre le séduise? Ou que les vicissitudes de fortune l'épouvantent? On dégrade cette majestueuse amitié quand on ne veut d'elle que ses bonnes chances. Cette maxime, le sage se suffit, est mésinterprétée, cher Lucilius, par la plupart des hommes. Il repousse de partout le sage et l'emprisonne dans son unique individu. Or, il faut bien pénétrer le sens et la portée de ce que cette maxime promet. Le sage se suffit quant au bonheur de la vie, mais non quant à la vie elle-même. Celle-ci a de nombreux besoins. Il ne faut pour le bonheur qu'un esprit sain, élevé et contempteur de la fortune. Je veux te faire part encore d'une distinction de Chrysippe. Le sage, dit-il, ne manque de rien. et pourtant beaucoup de choses lui sont nécessaires. Rien, au contraire, n'est nécessaire à l'insensé qui ne sait faire emploi de rien, et tout lui manque. Le sage a besoin de main, d'yeux, de mille choses, d'un usage journalier et indispensable. Mais rien ne lui fait faute. Autrement, il serait esclave de la nécessité. Or, il n'y a pas de nécessité pour le sage. Voilà comment, bien qu'il se suffise, il faut au sage des amis. Il les souhaite les plus nombreux possibles, mais ce n'est pas pour vivre heureusement. Il sera heureux même sans ses amis. Le vrai bonheur ne cherche pas à l'extérieur ses éléments. C'est en nous que nous le cultivons. C'est de lui-même qu'il sort tout entier. On tombe à la merci de la fortune dès qu'on cherche au dehors quelque part de soi. Quelle sera cependant l'existence du sage sans amis, abandonné, plongé dans les cachots, ou laissé seul chez un peuple barbare, ou retenu sur les mers par une longue traversée, ou exposé sur une plage déserte? Il sera comme Jupiter, qui, dans la dissolution du monde où se confondent en un seul chaos les dieux et la nature à un moment expirante, se recueille, absorbé dans ses propres pensées. Ainsi fait en quelque façon le sage, il se replie en soi, il se tient compagnie. Tant qu'il lui est permis de régler son sort à sa guise, il se suffit, et néanmoins prend femme. Il se suffit, et devient père, et il ne vivrait pas s'il lui fallait vivre seul. Ce qui le porte à l'amitié, ce n'est nullement l'intérêt, c'est un entraînement de la nature, laquelle, ainsi qu'à d'autres choses, a attaché un charme à l'amitié. La solitude nous est aussi odieuse que la société de nos semblables nous est attrayante. Et comme la nature rapproche l'homme de l'homme, de même encore un instinct pressant l'invite à se chercher des amis. Mais tout attaché qu'il soit à ce qu'il s'est fait, bien qu'il les mette sur la même ligne, souvent plus haut que lui, le sage n'en restreindra pas moins sa félicité dans son cœur et dira ce qu'a dit Stilpon qu'Épicure malmène dans une de ses lettres. Stilpon, à la prise de sa ville natale, avait perdu ses enfants, perdu sa femme, et de l'embrasement général, il s'échappait, seul et heureux pourtant, quand Démétrius, que nombre de villes détruites avaient fait surnommer Paul Yorset, lui demanda s'il n'avait rien perdu. « Tous mes biens, répondit-il, sont avec moi. » Voilà l'homme fort, voilà le héros. Il a vaincu la victoire même de son ennemi. « Je n'ai rien perdu, lui dit-il. » Et il le réduit à douter de sa conquête. Tous mes biens sont avec moi, justice, fermeté, prudence, et ce principe même qui ne compte comme bien rien de ce que peuvent ravir les hommes. On admire certains animaux qui passent impunément au travers des feux. Combien est plus admirable l'homme qui, du milieu des glaives, des écroulements, des incendies, s'échappent sans blessure et sans perte. Tu vois qu'il en coûte moins de vaincre toute une nation qu'un seul homme. Ce mot de Stilpon est celui du stoïcien. Lui aussi emporte ses richesses intactes à travers les villes embrasées, car il se suffit à lui-même. Il borne là sa félicité. Ne crois pas qu'il n'y ait que nous qui ayons à la bouche de fières paroles. Ce même censeur de Stilpon, Épicure, a fait entendre un mot semblable que tu peux prendre comme cadeau, bien que ce jour-ci soit soldé. Celui qui ne se trouve pas amplement riche, fût-il maître du monde, est toujours malheureux. Ou, Si la chose te semble mieux énoncée d'une autre manière, car il faut s'asservir moins aux paroles qu'au sens, celui-là est misérable, qui ne se juge pas très heureux, commanda-t-il à l'univers. Vérité vulgaire, comme tu vas le voir, dictée qu'elle est par la nature. Tu trouveras dans un poète comique « N'est pas heureux qui ne pense point l'être ». Qu'importe, en effet, quelle situation la tienne si elle te semble mauvaise. Quoi vas-tu m'objecter? Ce riche engraissé d'infamie, qui a tant d'esclaves, mais bien plus de maîtres, pour être heureux n'a-t-il qu'à se proclamer tel? Je réponds qu'il s'agit non de ses dires, mais de son sentiment. Non de son sentiment d'un jour, mais de celui de tous les instants. N'ayons peur qu'un aussi rare trésor que le bonheur tombe aux mains d'un indigne. Hormis le sage, nul n'est content de ce qu'il est. Toute déraison est travaillée du dégoût d'elle-même. Lettre 10. Utilité de la retraite, vœux et prières des hommes. Oui, je ne m'en dédie point. Fuis les grandes compagnies, fuis les petites, fuis même celles d'un seul. Je ne sache personne avec qui je veuille te voir communiquer. Et vois quelle estime tu obtiens de moi. J'ose te confier à toi-même. Cratès, dit-on, le disciple de ce même Stilpon dont j'ai fait mention dans ma dernière lettre, voyant un jeune homme se promener à l'écart, lui demanda ce qu'il faisait là tout seul. « Je m'entretiens, répondit l'autre, avec moi-même. Prends garde, je te prie, et fais grande attention, reprit Cratès, de ne pas t'entretenir avec un méchant. On surveille d'ordinaire l'homme en proie au désespoir ou à la frayeur, pour qu'il n'abuse pas de sa solitude. Et quiconque n'a plus sa raison ne doit pas être livré à lui-même. Car alors s'agitent les mauvais desseins. Alors on trame la perte d'autrui ou la sienne propre. Alors les passions criminelles jettent leurs plans. Et tout ce que, par crainte ou par honte, elle recelait en elle, l'âme le produit au dehors. L'audace s'aiguise, l'incontinence s'enflamme, l'irascibilité s'exalte. En un mot, le seul avantage de la solitude qui est de n'avoir point de complice, de ne point craindre les révélateurs, l'insensé le perd. Lui-même se trahit. Vois donc ce que j'espère de toi, ou plutôt ce que je m'en promets. Car qui dit espérance parle d'un bien douteux. Je n'imagine pas avec qui j'aimerais mieux te voir qu'avec toi. Je rappelle en mon souvenir de quel grand cœur ont jailli certains de tes mots, de quelle force ils étaient remplis. Je m'en félicitais tout d'abord et me dis « Cela n'est point venu du bout des lèvres. Il y a un fond sous ces paroles. Ce n'est point là une âme de la foule. Elle aspire à la véritable vie. Que tes discours, que ta conduite ne fassent qu'un. Garde que rien ne te fasse déchoir. Pour tes vœux d'autrefois, tiens en quitte la divinité. Formes-en d'autres tout nouveaux. Implore d'elle la sagesse, la santé de l'âme, et seulement ensuite celle du corps. Ces souhaits-là, qui t'empêchent de les renouveler souvent? Tu peux hardiment les faire. Tu ne demanderas rien du bien d'autrui. Mais selon ma coutume, pour joindre à ma lettre quelques petits présents, voici une chose bien vraie que je trouve chez Athénodore. Tiens-toi pour affranchi de tout mauvais désir, quand tu en seras au point de ne demander rien au ciel que tu ne puisses lui demander à la face de tous. Car aujourd'hui, au comble du délire, les plus honteuses prières se murmurent tout bas dans les temples. Si quelqu'un prête l'oreille, on se tait. Et ce qu'on ne voudrait pas que l'homme sût, on le raconte aux immortels. Veille à ce qu'on ne te rappelle point cette maxime préservatrice. Vis avec les hommes comme si Dieu te voyait. Parle à Dieu comme si les hommes t'entendaient. Lettre 11. Ce que peut la sagesse contre les défauts naturels. Il faut se choisir des modèles. J'ai conversé avec ton ami. Il est de bon naturel. Toute l'élévation de son âme, l'étendue de son esprit et même de ses progrès se sont montrés dans cette première entrevue. Il nous a donné l'avant-goût de ce qu'il réalisera, car il parlait sans préparation, pris à l'improviste. À mesure qu'il se remettait, il avait peine à se défaire d'un modeste embarras, d'heureux augure chez un jeune homme, tant elle venait du fond de l'âme cette pudeur qui colorait ses traits. L'habitude lui en restera, autant que je puis conjecturer, fût-il même aguerri et débarrassé de tous ses défauts. Fût-il sage, elle le suivra. Car aucune sagesse ne saurait enlever dans l'homme physique ou moral des imperfections originelles. Ce qui est implanté en nous, ce qui naît avec nous, se modifie par l'art, mais ne peut s'extirper. J'ai vu les plus hardis mortels ne pouvoir paraître en public sans être pris d'une sueur soudaine, comme ceux que la fatigue ou une extrême chaleur accable. J'en ai vu à qui les genoux tremblaient au moment de prendre la parole. Il en est alors dont les dents s'entrechoquent, la langue balbutie, les lèvres demeurent collées l'une à l'autre. C'est de quoi les leçons ni l'usage ne guérissent jamais. La nature manifeste là son empire et avertit même les plus forts de leur faiblesse. Outre cela, je connais encore ces subites rougeurs dont se couvrent les visages même les plus graves. Plus apparente chez ceux qui sont jeunes, comme ayant le sang plus chaud et le front moins exercé, elle ne laisse pas de se produire chez les hommes les plus consommés et chez les vieillards. Certaines gens ne sont jamais plus à craindre que lorsqu'ils ont rougi, comme s'ils avaient jeté dehors toute vergogne. Scylla devenait bien plus violent quand le sang lui était monté au visage. Nulle physionomie n'a été plus ouverte aux impressions que celle de Pompée. Il ne parut jamais devant plusieurs personnes sans rougir, surtout devant des assemblées. Même chose arriva à Fabianus, introduit au Sénat comme témoin, je me le rappelle, et cette pudeur lui allait merveilleusement. C'était l'effet non point d'un caractère timide, mais d'une situation nouvelle dont l'inhabitude, sans déconcerter tout à fait, agit sur des natures faciles et physiquement prédisposées à s'émouvoir. Car si chez les unes le sang est plus calme, vif et mobile chez d'autres, incontinent il se porte au visage. C'est, je le répète, ce que la sagesse n'empêchera jamais. Autrement, elle tiendrait la nature même sous sa loi, si elle enrayait toute imperfection. Celle contient du hasard de la naissance et du tempérament, lors même que l'âme a longtemps et péniblement lutté pour s'en affranchir, ne nous quitte plus. On ne les étouffe pas plus qu'on ne les fait naître. Les acteurs qui, sur la scène, imitent les passions, qui exprime la crainte dans ses agitations les plus vives et l'abattement dans tous ses symptômes, n'ont d'autre moyen pour simuler la honte que de baisser la tête, prendre un ton de voix humble, fixer sur la terre des yeux à demi fermés. Il ne leur est pas donné de se faire rougir, phénomène qu'on n'empêche ni ne provoque. La sagesse ne promet ni ne fait rien pour le combattre. Il ne dépend que de lui-même. Il paraît contre notre volonté, comme il disparaît sans elle. Mais ma lettre réclame le trait qui doit la terminer. Reçois donc un utile et salutaire conseil que je veux que tu graves dans ton âme. Il nous faut choisir un homme vertueux et l'avoir constamment devant nos yeux, afin de vivre comme en sa présence et d'agir en tout comme s'il nous voyait. Voilà, cher Lucilius, un précepte d'Épicure. C'est un surveillant, un gouverneur qu'il nous impose, et avec raison. Que de fautes évitées si, au moment de les commettre, on avait un témoin. Prenons pour guide de conscience un homme révéré par nous, dont l'autorité purifie nos pensées les plus secrètes. Heureux le personnage dont la présence, que dis-je, dont le souvenir même rend meilleur. Heureux qui le vénère assez pour qu'à ce seul souvenir, il rentre dans le calme et dans l'ordre. Qui rend aux vertus cet hommage, le méritera bientôt lui-même. Oui, fais choix de Caton, ou, s'il te paraît trop rigide, adopte la morale plus tempérée de Lélius. Détermine-toi pour l'homme qui t'a plu par sa vie, par ses discours, par son visage même, où son âme se montre dehors. Propose-toi-le incessamment, soit comme censeur, soit comme modèle. On a besoin, je le dis encore, d'un type auquel se conforment nos mœurs. À moins d'une règle, les penchants vicieux ne se redressent point. Lettre 12. Avantage de la vieillesse. Sur la mort volontaire. De quelque côté que je me tourne, tout ce que je vois me démontre que je suis vieux. J'étais allé à ma campagne, près de la ville, et je me plaignais des dépenses qu'entraînait le délabrement de ma maison. Le fermier me dit qu'il n'y avait point négligence de sa part, qu'il faisait tout ce qu'il devait, mais que le bâtiment était vieux. Ce bâtiment s'est élevé sous ma main. Que vais-je devenir, moi, si des murs de mon âge tombent déjà en poudre? J'étais piqué. Je saisis le premier sujet d'exhaler ma mauvaise humeur. On voit bien, dis-je, que ces platanes sont négligés. Ils n'ont plus de feuilles. Quelles branches noueuses, rabougries, quels troncs affreux et rongés de mousse. Cela n'arriverait pas si l'on prenait soin de les déchausser, de les arroser. Lui, de jurer par mon bon génie qu'il y fait tout ce qu'on y peut faire, qu'il n'omet aucun soin, mais qu'ils ont un peu d'âge. Entre nous, c'est moi qui les avais plantés, qui avais vu leur premier feuillage. Me tournant vers l'entrée du logis. Quel est, dis-je, ce vieux décrépit très bien placé, là, au seuil de ma porte, car il s'apprête à le passer pour toujours. Où as-tu fait cette trouvaille? Le beau plaisir d'aller enlever les morts du voisinage. Vous ne me reconnaissez pas, dit l'autre. Je suis Félicio, à qui vous apportiez des jouets. Je suis le fils de Philocitus, votre fermier. J'étais votre petit favori. Le bonhomme radote complètement. Ce poupon-là, mon petit favori, au fait il pourra l'être, voilà que les dents lui tombent. Je dois à ma campagne d'y avoir vu de tous côtés ma vieillesse m'apparaître. faisons-lui bon accueil et aimons-la. Elle est pleine de douceur pour qui sait en user. Les fruits ont plus de saveur quand ils se passent. L'enfance n'a tout son éclat qu'au moment où elle finit. Pour les buveurs, la dernière rasade est la bonne. C'est le coup qui les noie qui rend l'ivresse parfaite. Ce qu'est de plus piquant toute volupté, elle le garde pour l'instant final. Le grand charme de la vie est à son déclin. Je ne dis pas au bord de la tombe, bien que même, sur l'extrême limite, elle ait à mon gré ses plaisirs. Du moins, a-t-elle pour jouissance l'avantage de n'en désirer aucune. Qu'il est doux d'avoir lassé les passions, de les avoir laissées en route. Mais il est triste d'avoir la mort devant les yeux. D'abord, elle doit être autant devant les yeux du jeune homme que du vieillard, car elle ne nous appelle point par rang d'âge. Puis, on n'est jamais tellement vieux qu'on ne puisse espérer sans présomption encore un jour. Or, un jour, c'est un degré de la vie. L'ensemble d'un âge d'homme se compose de divisions de petits cercles enveloppés par de plus grands. Il en est un qui les embrasse et les comprend tous, celui qui va de la naissance à la mort. Tel cercle laisse en dehors les années de l'adolescence. Tel autre enferme dans son tour l'enfance tout entière. Vient ensuite l'année, qui rassemble en elle tous les temps qui, multipliés, forment la vie. Une moindre circonférence borne le mois, une bien moindre encore le jour. Mais le jour va, comme tout le reste, de son commencement à sa fin, de son aurore à son couchant. Aussi, Héraclite, que l'obscurité de son style a fait surnommer le ténébreux, dit que chaque jour ressemble à tous, ce qu'on a interprété diversement. Les uns entendent qu'il est pareil quant aux heures et ils disent vrai. Car si un jour est un espace de 24 heures, nécessairement tous les jours entre eux sont pareils, parce que la nuit gagne ce que le jour perd. D'autres appliquent cette ressemblance à l'ensemble de tous les jours, la plus longue durée n'offrant que ce qu'on trouve en une seule journée, lumières et ténèbres. Dans les révolutions alternatives du ciel, ce double phénomène se répète, mais n'est jamais autre qu'il s'abrège ou qu'il se prolonge. Disposons donc chacune de nos journées comme si elle fermait la marche, comme si elle achevait et complétait notre vie. Pacuvius, qui, par une sorte de prescription, fit de la Syrie son domaine, qui présidait lui-même aux libations et aux banquets de ses funérailles, se faisait porter de la table au lit aux applaudissements de ses amis de débauche. Et l'on chantait en grec au son des instruments « Il a vécu, il a vécu ». Il s'enterrait, cet homme, tous les jours. Ce qu'il faisait par dépravation, faisons-le dans un bon esprit. Et en nous livrant au sommeil, disons, satisfaits et joyeux, « J'ai vécu jusqu'au bout, j'ai fourni ma carrière. » Si Dieu nous accorde un lendemain, soyons heureux de le recevoir. On jouit pleinement et avec sécurité de soi-même quand on attend le lendemain sans inquiétude. Qui dit le soir « j'ai vécu » peut dire le matin « je gagne une journée ». Mais il est temps de clore ma lettre. « Quoi, dis-tu, elle m'arrivera sans la moindre aubaine ? » ?»« Ne crains rien, elle te portera quelque chose. » »« Quelque chose, ai-je dit ? » ?»« Beaucoup même. » »« Car, quoi de plus excellent que ce mot que je lui confie pour te le transmettre ?» Il est dur de vivre sous le joug de la nécessité. Mais il n'y a nulle nécessité d'y vivre. Et comment y en aurait-il? De toutes parts s'ouvrent à la liberté des voies nombreuses, courtes, faciles. rendons grâce à Dieu. On ne peut retenir personne dans la vie. Point de nécessité que l'homme ne puisse fouler aux pieds. Il est d'Épicure, dis-tu ce mot-là. Pourquoi donner ce qui n'est pas à toi? Toute vérité est mon bien, et je ne cesserai de t'envoyer de l'Épicure à foison, pour que les gens qui jurent d'après un maître et considèrent, non ce qu'on a pu dire, mais qui l'a dit, sachent que les bonnes pensées appartiennent à tous.